Le micro-trottoir.
Bonjour Lisa.
Bonjour Emma, effectivement je me suis baladée dans les rues de Lille cette semaine et j'ai posé quelques questions aux passants à propos des sans-abri en France. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Emmanuel Macron nous avait promis en juillet 2017 que d'ici la fin de l'année, il n'y aurait plus de femmes ni d'hommes dans la rue. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a tenu sa promesse ou du moins, est-ce que vous en voyez moins qu'avant ?
Je sais pas, moi j'en vois toujours autant personnellement.
Absolument pas. Il y en a toujours, enfin tout au moins sur Lille, j'en vois toujours autant qu'avant. C'est toujours les mêmes, ils sont toujours au même endroit et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements et de choses qui soient faites en leur faveur.
Non, surtout dans le centre-ville de Lille, il y en a beaucoup.
D'ailleurs, j'ai même l'impression que, ben, là, effectivement, on vient souvent sur l'île à pied, et je sais même pas s'il n'y en a pas autant, si pas plus.
Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de laisser les sans-abri dormir dans la rue en France, alors que dans d'autres pays comme en Hongrie, c'est interdit depuis octobre, par exemple ?
Bah non, ils devraient tous être relogés.
Plutôt contre, parce que je sais que de là où j'habite, il y a beaucoup de squats, de bâtiments abandonnés, qui sont des bâtiments type EDF ou des écoles, etc. Et je trouve ça scandaleux.
Ben ils peuvent dormir dans la rue, je ne vois pas pourquoi on leur interdit. Après,
non,
si
c'est
on peut.
Pas une interdiction, c'est ils sont.
Ce serait mieux qu'ils soient abrités, mais je veux dire, après, il y en a qui le font par choix.
Enfin, oui, contre de les laisser dans la rue, il faudrait développer plus de moyens d'hébergement, de structures pour. Oui, pour éviter ça, surtout là, avec la période hivernale. Je pense que personne n'aimerait, n'aimerait se retrouver dehors par moins 3 degrés, quoi.
Il y a du touriste, donc ça porte pas. Lille, enfin il n'y a pas que Lille, hein, d'autres villes, ça montre pas une qualité. Donc il faudrait que ces gens-là, s'ils font la manche, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Soit effectivement on s'en occupe et on les met dans des locaux, on leur donne à manger et également coucher. Mais les laisser dans la rue, même la journée à faire la manche, je suis pas d'accord.
Combien pensez-vous qu'il y ait de SDF en France ?
Beaucoup trop, mais j'ai vraiment aucune idée, je sais pas, 100 000,
il y en a beaucoup.
Ça c'est pas la réponse.
Ouais. Je veux dire 1% de la population.
Moi je dirais 50 000.
10 000, 10 000. Ouais, 10, 20 000.
C'est pas la peine que je vous donne un chiffre, je pense pas que j'arriverai à trouver, c'est certainement des milliers.
Et est-ce que vous avez une idée du pourcentage de femmes parmi eux ?
50% peut-être ?
On va dire la moitié.
10%.
Ah, moi j'aurais dit plus. 30%.
Je pense qu'il doit avoir peut-être 40% de femmes.
10% peut-être.
40.
40 pardon. Merde.
Sylvain Maillard, qui est le député LREM de Paris, avait affirmé en février que la majorité des SDF dorment dans la rue par choix. Qu'est-ce que vous pensez de son opinion ?
Il y en a certainement, oui. Dans les 140 000, il y en a certainement plusieurs milliers aussi qui ne désirent pas être... parce que c'est leur choix. J'en ai connu un, moi, c'était son choix, à côté de où je travaillais. C'était son choix de vie. C'était un professeur d'anglais. Puis, d'un seul coup, il a dit, c'est tout. Je ne veux plus faire partie de la société.
Je pense pas, parce que si j'étais SDF, personnellement, si je me retrouvais sans logement, je pense que je ne dormirais pas dans la rue. Je préférerais un foyer ou quoi, quelque chose au chaud.
Je pense que c'est pas par choix, c'est plus une question de survie, parce que dans les foyers, ils sont pas forcément accueillis comme il faut. Ils se font... Enfin, je suis jamais allée, mais ils se font agresser, ils se font voler le peu de choses qu'ils ont. Donc, c'est pas une question de choix, c'est une question de... C'est par dépit, enfin, je pense que c'est la seule option qui leur reste pour garder ce qu'ils ont, quoi. Ou les chiens, les chiens qui sont pas acceptés, etc., c'est leur seul compagnon, donc c'est pas un vrai choix.
Du vrai et du faux, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent dormir dans la rue parce que dans les foyers, ils sont... Soit on leur vole leurs affaires, soit ils sont pas maltraités, mais enfin voilà, il y a toujours des affrontements entre sans-abri pour, ce genre de choses. Quand ils nous demandent de l'argent, c'est souvent pour dormir dans un foyer, quoi. Et leur phrase d'accroche, c'est « Je vais encore me retrouver dans la rue ce soir, aidez-moi. »
Est-ce que vous connaissez des associations à Lille qui aident les sans-abri et est-ce que vous savez en quoi consiste leur mission ?
J'ai déjà vu une fois, je ne connais pas le nom de l'association, mais j'ai vu un groupe de personnes distribuant des vifs, la nourriture, etc., des SDF, surtout Grand Place, Rue Federbe, etc.
Comment ça s'appelle là,
les distribuent des petits déjeuners, ouais. Mais je sais plus comment ça s'appelle.
Moi aussi, mais c'est un peu le même principe, c'est un camion qui distribue des repas chauds Je sais plus non plus, ils avaient un logo sur leur gilet.
Non, alors là, non. À côté de où je vais chez la cardiologue, je sais que là, il y a une association, puisque quand j'y vais, je les vois sortir, rentrer. Mais je ne saurais pas dire le nom de cette structure.
Est-ce que vous seriez, vous, personnellement, capable de vous mobiliser comme le font ces personnes dans les associations?
Si j'avais plus de temps, oui, je pense.
Je pense que oui. Mais après, niveau moral, je pense que c'est très compliqué. C'est ce qui me... Je pense qu'on voit beaucoup de choses et... Enfin, j'ai une collègue qui fait ça et quand elle me raconte ce qu'elle voit, ça me fait super mal au cœur parce qu'il y a vraiment des gens qui ont pas de chance, sur qui la vie s'acharne et niveau psychologique, c'est difficile, je pense.
C'est vrai que accueillir des gens, oui. Maintenant, aller dans la rue, leur porter des repas, oui. Mais en même temps, je connais des personnes qui l'ont fait et m'ont dit que c'était très dur. Hein.
Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de... C'est bien ceux qui le font, mais je suis pas sûr d'être capable de le faire.
Bon, je pense que oui, oui. C'est parce que ça peut nous arriver à tous. D'un jour à l'autre, on n'a plus de travail, on peut plus payer notre loyer, on peut se retrouver dans la rue facilement. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien que si ça m'arrive un jour, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi comme on pourrait le faire.
Vu l'âge, je vois pas ce qu'on peut faire. À mon niveau, non. Je pense que ça doit être... S'il y a quelque chose à faire, je ne crois pas que c'est au simple citoyen, mais je pense que c'est à l'État à s'occuper de ça, ou alors au niveau des villes, hein, comme ici à Lille, la Martine-Aubry, à s'occuper effectivement de ça dans sa ville.
Par rapport aux chiffres demandés, donc le nombre de sans-abri en France s'élève à 141 500 selon un rapport sur le mal-logement édité par la Fondation Abbé Pierre. Et le pourcentage de femmes parmi eux s'élève à 40%, il a donc augmenté de 50% en 11 ans.
Merci Lisa d'avoir réalisé ce micro-trottoir. Je vous laisse maintenant en compagnie de Baptiste Candace et de son invité Anthony avec Vous allez le voir, un témoignage très émouvant.
Tout de suite, l'invité avec Radio Campus.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Emma. Ils sont des dizaines, des centaines à Lille à vivre dans le froid, dehors l'hiver, sous la pluie. Le mois de novembre marque le début de la saison hivernale, les maraudes commencent et la ville se réveille pour mettre à l'abri ses sans-abri. Hier soir, il était 18h, Anthony, 32 ans, a accepté de nous parler, à moi et à Enzo. Pour lui, c'est compliqué de trouver l'endroit où dormir le soir. Anthony vient de Toulouse après avoir enchaîné les différents petits boulots. La rue le guettait. Il décide alors de venir voir la famille qu'il a dans le nord de la France. La fin d'une relation amoureuse marquera le début d'une vie de sans-abri. Ils sont des centaines de milliers de voix en France. Vous écoutez l'une d'entre elles.
Je suis d'un petit village, une petite ville, pas un village, mais une petite ville. Et on m'a conseillé de venir ici à Lille, parce que pour les grands, parce que c'est une plus grande ville, et pour les foyers, pour pas que je reste à la rue et pour que j'aille dans un foyer. Donc je suis venu ici à Lille pour être dans un foyer. Mais à l'heure actuelle, il y a tellement de monde dehors que les foyers, ils sont vite pleins. Là, la période hivernale, elle n'est pas encore ouverte, pas encore. Apparemment, ça doit être vers novembre, ça doit être en novembre. C'est donc ce mois-ci que la période hivernale va être ouverte, jusqu'en mars. Enfin, normal, je crois, c'est novembre-mars.
Exactement.
Mais faut attendre que les structures ouvrent. Du coup, pour l'instant, les structures ne sont pas ouvertes et puis il y a tellement de monde dehors que moi je vais dans un foyer ici à Porte des Postes. C'est un foyer, je pense, de 14 ou 17 places. Du coup, les places elles sont vite prises. Il y a un autre foyer qui est du côté de Solferino. Du côté de Solferino, pareil, derrière l'église, c'est pareil, c'est la halte de nuit. Pareil, il y a toujours entre 10 et 15 personnes de plus que la normale. Du coup, c'est pareil, c'est, on appelle le 115, mais le 115, il nous montre sur des listes d'attente. Ben, voilà, quoi, en attendant qu'il y a des places qui se libèrent. Et, du coup, en attendant, c'est soit tu restes dehors, soit tu essaies de trouver quelque chose d'autre, ou alors des fois le 115, il te demande d'aller ailleurs, mais ils peuvent t'envoyer, mais dans des foyers qui sont loin. Par exemple, je sais pas, peut-être sur Dunkerque ou sur Roubaix. Ou... Du coup, faut avoir les moyens d'y aller. Après, il y a le transport en commun, mais c'est pareil. S'il y a quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui est de Lille pour les papiers et tout ça, et qui est sur. Qui est trop loin pour. À chaque fois, il doit revenir à Lille pour faire ses papiers ou pour. Parce que comme moi, hein, la journée, quand j'ai rien à faire, soit j'essaie de trouver quand même un peu de travail, un peu faire mes papiers. Au foyer, il y a une assistante sociale qui m'aide. Du coup, pareil, hein, je fais des dossiers. Une fois que les dossiers sont faits, il faut attendre. Du coup, voilà, après, les solutions, il n'y a pas trop de solutions.
Tu vois passer les maraudes ou pas ici?
Oui, ouais. Ici, ouais, heureusement, ouais, heureusement. Heureusement. Non, il y a des gens, des particuliers qui se réunissent, qui décident de passer dans les rues pour aider les gens. Après, il y a des associations, l'association Grand Froid, il y en a une autre, c'est... il y a deux, trois associations. Du coup, ils passent soit des fois la journée pour donner le café ou quoi quand il fait vraiment froid, ou le soir pour distribuer le café ou à manger. Il y en a d'autres, des particuliers qui font les maraudes soit pour donner des vêtements. Après, il y a le Resto du Cœur. Ou le secours populaire au Resto du Cœur, comme le 115 qu'on peut appeler pour soit avoir les duvets ou des couvertures. Mais je veux dire, faut être complètement à la rue, tu sais, appeler, demander un duvet, c'est que tu restes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément dans les foyers. Qu'ils n'aiment pas forcément, ou du coup, ben, il y a ces personnes-là qui restent vraiment à la rue, qui vont pas du tout dans les foyers. Ça leur permet, du coup, d'avoir quelque chose pour rester au chaud, quoi, un duvet ou une couverture. Et sinon, tu vois, ils distribuent des habits, des gants, des. Ce qu'il faut, quoi, pour.
Donc là, par exemple, cette nuit, tu sais ce que tu fais ou,
Là, pour ce soir, je dois. J'ai appelé ce matin le foyer, mais un peu trop tard, du coup, j'ai pas eu de place. Il me conseille d'attendre, je crois, c'est 22h pour rappeler, pour savoir s'il y a des désistements, savoir s'il y a des personnes qui sont venues ou pas. Après, non, pas spécialement, à part. Essayer de demander un peu aux gens de quoi à manger, ce soit si à la maraude, parce que après ça dépend si la maraude, parce que les maraudes ils passent pas non plus tous les jours. Et parce que bah, des fois dans une soirée il y a peut-être deux maraudes qui vont passer et le lendemain il n'y en a aucune qui va passer. Du coup, comme là, moi ce soir, par rapport au foyer, je vais attendre 22h, savoir s'il y a eu des désistements, s'il n'y en a pas, soit m'arranger pour aller à l'hôtel ou l'auberge. Mais c'est pareil, si là j'attends 22h et qu'à 22h on me dit non, il n'y a pas de désistement, du coup c'est pour ça que je m'y prends un peu plus à l'avance, quoi, là, soit la journée ou soit en début de soirée, comme là maintenant, pour essayer de demander un peu d'argent, ou parce que ben voilà, c'est toujours ben, c'est payant, quoi. Hein.
Oui, l'auberge, c'est combien par exemple?
Ça doit être une vingtaine d'euros, l'auberge, et l'hôtel, ben, ça doit, c'est 39. Le moins cher, c'est 39, l'hôtel, ou sinon l'auberge, ouais, une vingtaine d'euros. D'accord.
Ouais, et après la journée, comment pour demander de l'argent et tout, comment tu trouves les gens distants
Moi je le fais pas trop du coup, mais moi ma façon c'est que ouais les gens. Après je sais pas si c'est par rapport qu'il y a beaucoup de personnes ou du coup peut-être que les gens soit ils sont frustrés parce qu'il y a beaucoup de personnes, ou après il y a les personnes qui n'osent pas, et les personnes que ça leur fait tellement de la peine qu'ils fuient.
Oui,
parce
oui,
que
aussi.
Après il y a les personnes qui fuient parce que ben ils s'en tapent. Après il y en a d'autres qui vont soit te claquer ou te dire sans connaître ton histoire ou sans te demander pourquoi t'es à la rue, ils vont te dire ben écoute va bosser, ou alors que derrière ils savent pas pourquoi t'es à la rue.
Nous nous sommes entretenus longuement avec Anthony. Comme beaucoup d'autres qui m'ont dit, il n'aime pas le faire. Et ce qu'il préfère, c'est discuter avec les inconnus, comme nous. Mais il a si bien conclu cette rencontre avec cette phrase « Avant, j'étais vous, quelqu'un de normal, et je ne m'arrêtais pas forcément pour donner au SDF. Maintenant, je comprends. »
Merci Baptiste d'avoir interrogé Anthony. On lui souhaite beaucoup de courage pour son futur. À l'approche de l'hiver, nous ne pouvons pas évoquer les sans-abri et le logement sans l'abbé Pierre. C'est pour cette raison que nous allons vous le présenter avec Bérénice à travers une chronique historique. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est né en 1912 dans une famille catholique riche. À 12 ans, il découvre la misère en allant distribuer de la soupe aux pauvres avec son père. Il rejoindra ensuite l'ordre des frères capucins en tant que prêtre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut résistant, cachant les juifs chez lui. Il fut longtemps recherché par la Gestapo. En 1943, il rencontre le général de Gaulle à Alger et devient député français de Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951. En 1949, il pose les premières pierres de ce qui deviendra ensuite Emmaüs. On écoute Bérénice sur le sujet.
Oui Emma, en effet, l'abbé Pierre fonde les prémices d'Emmaüs en 1949. Le projet débute lorsqu'il achète une maison dans la banlieue parisienne qu'il juge trop grande pour lui. Il décide alors d'en faire une auberge de jeunesse internationale qu'il nomme Emmaüs. Mais il n'est pas seul à la tête de cette fondation. Sa secrétaire, Lucie Coutaz, rencontrée dans la résistance, l'a aidée. Une autre rencontre a été marquante pour l'abbé Pierre, celle de Georges Leguet. L'abbé Pierre croise le chemin de cet homme, désespéré, et lui redonne le goût de vivre. Georges Leguet devient alors le premier compagnon d'Emmaüs, et la naissance du mouvement est actée. Il est ouvert à toutes les nationalités et indifférent des orientations religieuses de chacun. Mais il faudra attendre 1954 pour que le mouvement soit organisé en association. L'hiver est particulièrement rude pour les sans-abri, et l'abbé Pierre veut les aider. Ainsi, le 1er février, il utilise les antennes de Radio Luxembourg pour diffuser son célèbre appel. Il appelle aux dons pour venir en aide à ces sans-abri souffrant face à ce froid meurtrier. Ses paroles font écho dans la population. L'abbé Pierre récolte 500 millions d'euros. L'association peut alors voir le jour le 23 mars 1954, suite à cet élan de générosité. Emmaüs franchit bien vite les frontières du territoire français. L'abbé Pierre voyage et diffuse son idée. Le mouvement Emmaüs se développe ainsi dans le monde entier, étant présent aujourd'hui dans 39 pays. Mais l'abbé Pierre n'a pas seulement fondé Emmaüs. Emma va vous parler de ses autres actions.
En 1988, toujours dans l'objectif d'aider les pauvres, il crée la fondation Abbé Pierre pour les logements défavorisés. Il rencontre également les représentants du Fonds monétaire international pour trouver une solution à la dette extérieure des pays du tiers-monde. 50 ans après son premier appel, en février 2004, il en lance un deuxième, le Manifeste contre la pauvreté. Il estime alors qu'il y a en France près de 5 millions d'exclus, dont 1 million d'enfants. À la fin de sa vie, il passe environ un mois sur deux dans la solitude et la prière, dans un couvent en Normandie. Il s'éteindra à l'âge de 94 ans, le 22 janvier 2007. Il ne faut pas pour autant oublier l'image de miraculé associée à l'abbé Pierre. En effet, il a souvent été malade, notamment des poumons quand il était jeune. Pendant la Grande Guerre, il est tombé au fond d'une crevasse en aidant des gens à s'enfuir. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un voyage en Inde en 1950, il a survécu à l'atterrissage forcé d'un avion sans moteur. Enfin, il fut naufragé en 1963 au Rio de la Plata, entre l'Argentine et l'Uruguay. Véritable figure mystique, l'abbé Pierre n'oublie pas de nous éclairer à travers une de ses citations. « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. » C'est donc à méditer.
Vous avez manqué une émission, mais vous ne savez pas comment la réécouter ? Pas de panique ! Rendez-vous sur le site campusil.com dans la rubrique « Podcast ».